L'évangile de Marc, chapitre 9, et nous lirons des versets 14 à 29. Cet événement se passe juste après la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, où il parle avec Moïse et Élie, où Dieu le Père lui parle du ciel, parle aux disciples en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Nous lisons donc au verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc ils sont descendus de la montagne après la transfiguration de Jésus, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. » Avec les disciples. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise. Il vaut mieux peut-être dire émerveillée. C'est le mot est très fort. Probablement parce que le visage de Jésus devait encore briller. Vous vous rappelez que lorsque Moïse était sur la montagne et que lui, il a vu le Seigneur, il a vu la gloire du Seigneur. Son visage rayonnait, le peuple était étonné de le voir comme cela. De toute façon, Marc nous dit que la foule est surprise ou émerveillée en le voyant. Et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Là, il s'adresse aux scribes quand on le compare à la version de Matthieu et de Luc. On trouve d'autres détails, mais il s'adresse donc aux scribes. « Mais un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. » Donc le jeune homme est possédé. « En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Ça, c'est la scène que Jésus retrouve. Un chaos horrible, une dispute. Sans doute les scribes sont en train de disputer en disant, vous voyez, vous n'avez pas pu chasser ce démon. Donc, Jésus, au nom de qui vous essayez de le faire, il n'est pas le Messie, comme nous avons dit au peuple. Donc, il profite de cet échec des disciples pour essayer de tourner la foule vers l'incrédulité. Nous lisons au verset 19. Jésus leur dit, donc, le père de l'enfant dit que les disciples n'ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, » répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité !» Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Le mot lever en grec, c'est le même mot qu'on utilise pour ressusciter. Était-il mort? Probablement pas, mais il était tellement possédé par la vitalité de cet esprit que son départ le laisse complètement dans un état complètement semblable à la mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce ne peut sortir que par la prière. » Je ne peux pas imaginer un contraste plus immense pour Jésus ou pour les trois qui étaient avec lui, Jacques, Jean et Pierre, que cette expérience où il voyait la gloire du Fils de Dieu, Christ est devenu brillant et Moïse et Élie descendent du ciel et parlent avec lui, des hommes viennent du monde à venir et le Père à un moment parle du ciel et dit « Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. » Tout est gloire, tout est clair. La gloire, l'identité de Christ et tout ce qu'il est tellement mis hors de tout doute. Et on descend la montagne et tout est en chaos total. Les disciples sont dans un échec total. Et tout le monde est en train de douter, est-ce que ce Jésus, au nom de qui on pense pouvoir chasser les démons, est-ce qu'il est quoi que ce soit? Ah oui, le diable profite, n'est-ce pas, lorsque Jésus n'est pas là, pour semer vraiment la pagaille. Et tout pour vous et pour moi tourne autour de cela. Dieu est là, vous savez qu'il existe. Dieu a un fils. Le plan de Dieu, c'est de glorifier ce fils. Et votre destin éternel joue autour de votre incrédulité ou votre foi dans le Fils de Dieu. Embrassez le Fils, dit le psaume 2, pendant qu'il est temps. Alors, nous allons voir quatre choses ce matin, tout autour de la foi et de l'incrédulité, parce que vous allez voir que c'est ça que Dieu a voulu nous enseigner en nous laissant cet incident. Vous savez que quand on lit des récits dans la Bible, souvent la clé pour nous faire comprendre quelle est la vraie leçon ici, que Dieu veut que je comprenne pour ma vie, dans les récits, les discours, il y a de l'action dans un récit, et il y a des discours. On agit et on parle. Et dans un incident, le discours nous amène toujours au nœud de la situation. Quand il vous arrive un incident, et il y a de l'action, vous avez un accident de voiture, machin, ou vous avez ceci ou cela, et il y a de l'action, et puis, à un moment donné, les gens parlent. Les gens ont des choses à se dire à cause de l'incident. Et ce qu'ils disent, on ne va pas parler des choses secondaires. On ne va pas parler de ce qui n'est pas important dans l'incident. On va aller tout droit au point principal. Et si vous écoutez le discours dans un incident, vous allez découvrir souvent le nœud du problème que Dieu veut nous communiquer. Alors, je vous demande, dans cet incident, qu'est-ce que Jésus discute avec le père de l'enfant ? Il discute l'incrédulité. Quelle est la première chose que Jésus dit? Ô race incrédule! Et quelle réprimande est-ce qu'il donne au Père? Si je peux, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Quelle est la discussion entre Jésus et les disciples après? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser les démons? À cause de votre incrédulité. N'est-ce pas? Donc tout tourne autour de cela et nous aussi, Nous avons ce problème, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez jamais eu de problème d'incrédulité? De ne pas croire au Fils de Dieu? Sa grâce, son amour pour toi, sa capacité de te sauver là où tu es. Là où tu es, avec toute ton indignité. Tout le mal, tout le diable qui est en toi. Non, je suis allé trop loin. Enfin, nous sommes face aux mêmes choses, n'est-ce pas? Et donc, nous allons voir qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. C'est très important, cet incident. Et cela va nous ouvrir des horizons, que vous soyez pas encore chrétien ou que vous soyez chrétien. Parce que vous êtes tous face au diable et au mal qui est en vous. Premier point. Satan et le mal veulent nous conduire à ne pas croire en Jésus, le Fils de Dieu. Très simple. Quand on descend de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que parfois, Satan ou le mal prennent une emprise plus grande sur certains que d'autres. Et dans cet événement, ce jour-là, Jésus nous indique que cette sorte de démon ne sort que par la prière. C'est-à-dire, rappelez-vous que avant cet incident, les disciples avaient chassé plein de démons. Luc 10, il revient après leur première tournée quand Jésus les envoie. Il dit, « Seigneur, même les démons sont sujets à nous en ton nom. » Et Jésus dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Mais maintenant, nous sommes plus tard. Ils ont réussi. Nous ne savons pas qu'ils ont jamais eu un échec. Mais ce jour-là, ils n'arrivent pas. Et Jésus dit, « C'est parce que cette sorte de démons ne sort que par la prière. » En d'autres termes, apparemment, il y a des démons plus maléfiques et plus puissants que d'autres. Jésus le dit. En Matthieu 12 et le verset 45, Jésus raconte une histoire, c'est une sorte de parabole d'un homme qui est possédé par un esprit, et puis l'esprit impur le sort de lui. Et donc, au verset 45, il dit, au sujet du démon, « Il s'en va et prend avec lui sept autres esprits plus mauvais que lui. » Je souligne, « plus mauvais que lui. » Donc, même dans le monde des ténèbres, chers amis, il y a une hiérarchie. Et la Bible nous parle de principauté, domination, pouvoir dans les lieux célestes. Et ces mots signifient des différents niveaux de puissance. Nous sommes dans un monde réel. Nous parlons d'une chose concrète et réelle. Et dans notre monde, il y a des gens plus mauvais que d'autres. Voilà. Et dans le monde des ténèbres, c'est ainsi aussi. C'est horrible, n'est-ce pas, de voir quelqu'un qui, même dès son jeune âge, est sous l'emprise, même si ce n'est pas une possession démoniaque, du mal. Si c'est le mal de son péché, quelqu'un qui devient violent dès son enfance. Cet enfant à l'école primaire qui déjà tape, prend tout ce qu'il peut trouver et fait des choses. Vraiment, on ne peut pas croire le niveau de méchanceté de cet enfant déjà. Et donc, nous voyons ici dans ce cas que ce garçon, qui n'est plus gamin, qui doit être adolescent, est sous l'emprise d'un démon particulièrement puissant. Je veux continuer à vous parler juste un moment, parce que je suis en train de vous dire que le mal veut nous conduire à l'incrédulité. Et Satan veut aussi. Et je suis en train de vous dire que le mal est parfois dans des degrés très graves, n'est-ce pas? Nous avons besoin de nous mettre à la place de ce papa. Ça fait des années. il a son cher enfant qui lui arrive les choses les plus abominables, les plus effroyables. C'est difficile, c'est ton enfant, tu l'aimes. Et pourtant, quand il rentre dans cet état, quand le démon le saisit, c'est tellement horrible que toi-même, tu es répugné, tu es effrayé, tu as envie de te tenir à l'écart. Ce regard vacant, cette lèvre qui pend, ce corps qui devient raide, la bouche qui écume, cette personnalité de l'enfant qui est... Il y a un abîme infranchissable entre toi et l'enfant. Tu peux lui crier, tu peux lui parler. Il n'est plus atteignable par toi. C'est ton enfant. C'est une horreur. C'est démoniaque ce qui arrive devant toi. Et encore et encore. Et le démon essaie de le tuer, de le jeter dans le feu et dans l'eau. Il faut toujours être auprès de l'enfant. Tu as vécu des années et tu ne peux pas le laisser seul. Parce que si le démon le saisit, il veut le tuer. Et personne ne peut rien faire. N'imaginons pas que le papa n'a pas cherché du secours. Quelqu'un pour chasser les démons de cet enfant depuis des années. Mais il n'en est rien. Et je ne peux pas imaginer l'agonie de ce père. C'est ça la scène que Jésus rencontre quand il descend de la montagne. Dans le verset 20 et 26, nous voyons combien le mal Satan est vraiment maléfique et mauvais et méchant. La manière dont quand Jésus arrive, il veut, c'est comme un locataire qui va se jeter dehors par le propriétaire. Parce qu'il est mauvais locataire, peut-être il ne devrait même pas être dans cette maison. Mais de toute façon, quand le propriétaire dit « maintenant tu dois partir », il prend une dernière occasion pour essayer de tout abîmer dans la maison. C'est horrible ça. Mais c'est exactement ce que le démon fait. Nous lisons dans le verset 20 ceci. Et aussitôt, que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion et tomba par terre et se roulait en écumant. Et puis dans le verset 26, quand Jésus commande au démon de sortir, il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion, l'enfant devient mort. Il essaie une dernière fois de tuer l'enfant. Et vous pouvez demander peut-être pourquoi est-ce que Jésus a permis que ce démon agisse de cette manière au moment où il le chasse. Pourquoi est-ce qu'il ne l'oblige pas de sortir sans rien faire à l'enfant? Et je crois que Jésus le laisse faire exprès. Parce qu'il est grand temps que nous voyons ce que c'est que Satan. Dans sa bonté, Dieu vous préserve des profondeurs de Satan, si vous n'êtes pas chrétien. Mais vous êtes à lui, vous êtes sous son emprise. Mais les gens ne voient pas jusqu'où Satan veut vous amener. Et donc, je suis presque sûr que ici et dans certains autres cas, le Seigneur permet que Satan se révèle, parce qu'il est important que vous et moi, nous voyons ce que c'est que le royaume des ténèbres. Nous voyons la haine que Satan a envers vous. Combien il veut vous détruire éternellement. C'est son envie. Mais je dirais que l'effet le plus pernicieux de Satan et du mal, c'est pas tout ça. C'est ce qui arrive à la foule en ce moment. C'est pas l'enfant. En fait, l'enfant devient presque secondaire dans le récit. Il est guéri. Mais il y a quelque chose qui arrive maintenant à la foule. À cause de Satan, à cause de ce démon, et à cause du fait que les disciples n'ont pas pu le chasser. Qu'est-ce qui arrive à la foule? La foule maintenant est amenée par Satan à croire que ce Jésus, je ne crois pas qu'il soit capable Je ne crois pas qu'il soit sauveur. Je ne crois pas qu'il soit suprême. Ses disciples, en son nom, n'ont pas pu chasser ce démon. Et nous voyons que l'incrédulité vis-à-vis de Jésus est semée dans ton cœur par le mal. Et ça, c'est, je le vois tout le temps. Les gens me disent, en voyant le mal dans le monde, les guerres, les choses horribles, les choses que Satan sème dans ce monde, ils disent, comment est-ce que Dieu peut exister? N'est-ce pas? Tout de suite. Ça, c'est le plus grand problème des gens pour croire. C'est le mal visible que Satan sème et qui Satan veut nous pousser par là à croire que Dieu ne peut pas exister. Un Dieu suprême est tout bon. Et voilà le problème ce jour-là. Mais vis-à-vis du Fils de Dieu, image visible du Dieu invisible. Bah, vous demandez pourquoi est-ce que Dieu permet à un enfant comme ça d'être saisi et possédé par un démon de la manière. Je crois que la vraie question, c'est le contraire. C'est pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous possédés ainsi. Parce que rappelez-vous, nous sommes détournés de Dieu. Nous avons dit non à Dieu et nous avons dit oui à Satan. Ève a dit oui, Adam a dit oui, notre race tout entière en eux a dit oui. Nous avons dit nous choisissons ta voie, ta manière. Nous n'allons pas obéir à Dieu, nous n'allons pas dépendre de lui pour le bien. Nous allons essayer par nous-mêmes de chercher ce que nous voulons. Et ça c'est l'esprit satanique et la voie satanique. Et nous sommes donnés à Satan, pour ainsi dire. Et ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce que nous ne sommes pas complètement sous l'emprise la plus mauvaise possible. Et ça s'appelle la grâce de Dieu, qui œuvre dans tout le monde. Mais parfois, Dieu laisse à Satan la possibilité de prendre ce dont il a le droit. De prendre quelqu'un qui s'est donné à lui et de le prendre vraiment. Justement parce que Dieu veut, comme j'ai dit tout à l'heure, que nous voyons, que nous comprenons où cela mène. Si nous ne nous repentons pas. Ou si nous jouons avec un péché. Nous voyons, même en tant que chrétiens, que le mal n'est pas un jeu. Quand nous voyons où le mal nous mène. Je crois que peut-être Dieu veut aussi montrer par cet événement la grandeur de sa puissance. Donc il laisse un démon très puissant prendre ce garçon et par sa délivrance d'un cas, semble-t-il, extrême et impossible qu'il fait avec une telle aise, il nous montre qu'il est le Fils de Dieu. Mais en tout cas, nous devons nous dépêcher parce qu'il faut aborder la deuxième chose. Nous avons parlé du fait que Satan et le mal veulent nous conduire surtout à l'incrédulité vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ et sa bonté, sa puissance envers vous. Deuxième chose, je veux juste vous dire un mot ou deux sur le fait que l'incrédulité elle-même est un mal et une horreur. D'accord? Pensez avec moi pour un moment. Le mal veut nous pousser à l'incrédulité, mais l'incrédulité elle-même est un péché, une offense, une méchanceté. Et nous ne le réalisons pas souvent. Mais regardez la réponse de Jésus, parce que d'abord, votre incrédulité est très injurieuse au Seigneur lui-même. Nous lisons dans le verset 19 ceci. Regardez ce verset avec moi. Jésus leur répondit, « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » C'est peut-être les propos les plus étonnants de la bouche de notre Sauveur dans tous les évangiles. Voilà quelque chose sort quand on ne s'attend pas à cela. Mais on a besoin de cela parce que quand même, Dieu est quelqu'un et il a les choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Et l'incrédulité est insupportable pour lui. C'est tellement méchant envers lui. C'est tellement mauvais quand vous ne croyez pas. Parce que, est-ce que vous ne réalisez pas ce que les gens sont en train de faire? Jésus descend, c'est le Fils de Dieu. Le Père dit, c'est mon Fils, mon bien-aimé. Moïse et Élie sont devant lui dans l'admiration et parlent de sa croix, de sa mort à venir. Il est transfiguré et il descend et les gens doutent tout de lui. L'incrédulité, votre incrédulité, c'est une attaque frontale au Seigneur. Parce que quand vous ne croyez pas, vous êtes en train de dire comme ces gens-là ce jour-là, « Seigneur, tu n'es pas tout-puissant, tu n'es pas bon. » Je ne peux pas me confier à toi, tu n'es pas fidèle, et je ne peux pas prendre ta parole à la lettre. N'est-ce pas? C'est pour ça que 1 Jean nous dit que celui qui ne croit pas fait de Dieu menteur. Faire de Dieu, qui est vérité lumineuse, faire de Dieu menteur? Nous pouvons voir combien c'est indigne et attristant pour le Seigneur. Et quand avec une parole, il jette ce démon pour toujours, il délivre l'enfant, on voit combien la foule était indigne envers le Seigneur de penser qu'il ne pouvait pas le faire. Or, il le fait sans effort. Et nous aussi, nous faisons la même chose, n'est-ce pas? N'avez-vous pas un point dans votre vie, un mal dans votre vie, un péché en vous, et vous vous dites parfois, est-ce que le Seigneur peut vraiment me délivrer de ça? Est-ce que le Seigneur peut vraiment sauver telle personne qui semble sous l'emprise du mal? Et le Seigneur, je crois, dit cette phrase aux races incrédules à tout le monde, aux scribes, à la foule et même à ses disciples, qui n'ont pas pu, à cause de leur incrédulité, dit-il, chasser le démon. Aux races incrédules, combien de temps encore est-ce que je dois vous supporter? Nous avons besoin de penser à ça, n'est-ce pas? Parfois, les gens pensent que l'incrédulité, c'est un état logique pour un non-croyant. Ben, je n'ai pas assez d'évidence. La Bible dit tout le contraire. Ces gens-là, ils ont eu l'évidence devant eux trop de fois. Et nous allons voir la nature de l'incrédulité tout à l'heure. Mais non seulement nous sommes en train de parler du deuxième point, que l'incrédulité elle-même est un mal. C'est un mal envers Dieu, mais c'est un mal envers toi lorsque tu ne crois pas dans le Seigneur. Regardez ce Père, regardez les disciples, regardez combien le Père est prêt de priver son enfant de la délivrance. Parce qu'il dit au Seigneur Jésus, « Si tu peux !» Et Jésus lui répond, « Si tu peux !» Tout est possible pour celui qui croit. Sous-entendu, pour celui qui ne croit pas, tout n'est pas possible. Des choses possibles deviennent impossibles. Et nous savons que dans certains moments de son ministère, la Bible dit « Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans cette région à cause de leur incrédulité. » Et je vous dis, votre incrédulité est en train de vous détruire. Et moi aussi. Ou au moins, si on est croyant, notre incrédulité nous prive de tant de bénédictions que le Seigneur veut nous donner. Je prêche à moi-même. Je le sais fort bien. Je le sais fort bien. Je pourrais être un homme différent, un chrétien différent, avec une joie beaucoup plus grande. Et je confesse constamment que cette incrédulité est horrible. Ça me fait un mal terrible. Et aussi pour mes enfants, pour ma famille, pour tout ce que je touche. Moi, je devais être quelqu'un qui est rayonnant de joie, qui le montre que être pardonné par le Christ, sauvé, propriétaire de la vie éternelle, fils de Dieu, il n'y a rien de semblable. Mais vraiment. Mais parfois, ça ne transparaît pas dans ma vie. Et c'est à cause de l'incrédulité. Mon incrédulité est horrible. J'espère que je vous ai convaincu. Maintenant, nous allons passer au troisième point. Nous avons dit que Satan et le mal essaient de nous pousser à l'incrédulité vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit que cette incrédulité elle-même est horrible envers Dieu et envers nous. Troisièmement, nous devons réfléchir, mais très rapidement, sur la nature de la foi. Maintenant, nous allons vers la partie positive. Vous devez comprendre ce que c'est que croire, parce que c'est ça que le Seigneur vous appelle à faire. Avant toute chose, il vous appelle simplement à croire dans Jésus, le Fils de Dieu, votre Sauveur. Ok, qu'est-ce que la foi? Regardez le verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Alors, voilà quelque chose de très intéressant, n'est-ce pas? On peut s'identifier bien. Je connais même une personne qui dit que cette phrase, ce verset, c'est son verset de sa vie. C'est son verset donc qui dit que c'est pour lui. Et je compatis parce que on se sent qu'on est souvent dans cette situation, n'est-ce pas? Mais ce qui est réconfortant pour nous, c'est que le Seigneur Jésus accepte cette foi imparfaite et partielle de cet homme qui doit dire « je crois, viens au secours de mon incrédulité » parce que cette foi n'est pas parfaite, elle est parsemée de doutes qui viennent m'attaquer. Et Jésus l'accepte. Et il répond en guérissant le Fils. D'accord? Donc, la première chose que nous devons apprendre, et c'est très important, c'est que la foi, ce n'est pas une assurance totale. D'accord? Parfois, les gens pensent que si je n'ai pas une assurance totale, je ne crois pas. Ça, c'est pertinemment faux. Voilà. Vous êtes dans un pays froid. Et un lac à glacer. Vous n'arrivez pas à voir l'épaisseur de la glace parce que vous ne pouvez pas soulever la glace. Mais vous devez traverser. Vous espérez que c'est assez épais. Et quelqu'un de très fiable vous assure qu'à cette température, j'ai vécu ici 40 ans, j'ai même conduit mes voitures sur le lac glacé. On fait ça aux États-Unis dans certains états, je vous assure, il dit, il n'y a pas de problème. Vous savez que cette personne est fiable. Vous avez besoin d'aller vite. C'est un grand lac, vous ne pouvez pas faire le tour. Alors, vous vous hasardez à marcher dessus. Maintenant, est-ce que vous avez une assurance totale? Non! Mais vous avez assez de foi pour y aller. Voilà une autre personne derrière vous qui n'a pas assez de foi pour même tenter. Cette personne ne va pas arriver à l'autre bord. Mais vous, vous avez suffisamment de foi, même si elle n'est pas complète, même si elle n'est pas parfaite, pour vous confier à cette glace. Et en allant, en vous confiant, votre foi grandit. Parce que vous voyez, ah, là, c'est solide. Et vous traversez. Donc, la foi, ce n'est pas une assurance qui bannit toute inquiétude. C'est pas ça. Je le dis parce que des gens pensent qu'ils ne peuvent pas venir à Jésus pour être sauvés, parce qu'ils n'ont pas une assurance totale. C'est de la folie. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Même chose pour vous, chrétiens. Lorsqu'il y a quelque chose pour lequel vous devez croire au Seigneur, dès qu'il y a un doute, ne pensez pas que vous êtes complètement incrédule. Dès que vous avez des problèmes à tenir dans votre foi, oui, le Seigneur peut faire ça. Ne pensez pas que tout est gâché. Ce n'est pas vrai. Et nous devons être comme ce Père qui utilise la foi qu'il a. Donc, c'est une foi acceptable dès que vous êtes prêt à vous engager au Seigneur Jésus-Christ. Et la foi véritable, si vous l'avez, vous criez vers le Christ. C'est ça. Vous voulez savoir si vous avez la foi? Si vous avez la foi n'est jamais théorique. La foi est toujours concrète. Si vous avez la foi, vous criez à Jésus-Christ. Et vous dites, sauve-moi. Vous n'attendez pas pour avoir l'assurance complète. Vous n'attendez pas en pensant que non, j'ai tellement été incrédule depuis si longtemps que le Seigneur ne peut pas agir pour moi parce que ma foi est tellement petite. Ce n'est pas une question de vous. Ce n'est pas que vous allez mériter l'action du Seigneur si votre foi est grande. Ça, c'est inverser les choses. C'est le salut par les œuvres. Jésus dit dans la version de Matthieu, si vous avez la foi comme un grain de senevé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et transporte-toi dans la mer. Donc Jésus dit, ce n'est pas la grandeur de votre foi. Vous voyez, quand Jésus descend la montagne, c'est une foule médiocre. Tout est médiocrité. Il n'y a personne qui sort de l'eau qui, ce jour-là, a une foi admirable. Personne. Mais est-ce que ça empêche le Christ? Le Christ, notre Seigneur, il agit à cause de qui il est. Et la foi montre que même dans le chaos le plus mauvais, même dans l'emprise de mal la plus profonde, lorsqu'on a fait appel au Seigneur Jésus-Christ, il change tout, il délivre. Ça, c'est la leçon de cet événement. Et c'est très encourageant. On a trop de gens qui attendent, des chrétiens. Oui, je croirais que le Seigneur va m'aider vraiment une fois que je serai un meilleur chrétien. Tu ne vas jamais être un meilleur chrétien. Parce que tu mets ta foi dans ta foi. Tu ne mets pas ta foi en Jésus. Tu attends que ta foi soit une réalité parfaite. Oh, que Christ est une réalité. Et là où il est, rien ne peut résister devant lui, dans le royaume du mal. Donc, la nature de la foi, c'est ça. C'est de ne plus dire « si tu peux ». N'est-ce pas? Nous voyons que ce Père, à un moment donné, il dit « si tu peux ». Et Jésus n'accepte pas ça. Il répète. Et il ne dit pas « si je peux ». Ça, c'est presque donner un peu de crédibilité à la phrase. Le Père dit « si tu peux » et Jésus répond « si tu peux ». Il renvoie ça, telle qu'elle est, la phrase, au Père. Et il dit « si tu peux ». Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et donc maintenant, le Père va se repentir intérieurement. Il laisse tomber le « si tu peux ». Parce que vous comprenez ce que c'est que le « si tu peux ». Le problème, c'est toi, Jésus. Si tu peux. Si le démon n'est pas chassé, le problème, c'est toi. On ne sait pas vraiment si tu peux. Et là, il y a quelqu'un d'inconverti, et est-ce que Jésus le peut? Est-ce qu'il a assez de compassion? est-ce qu'il peut vraiment me changer, moi, maintenant, tel que je suis? Non, il n'y a pas de si tu peux. La foi a une repentance qui montre que le problème n'a jamais été chez Jésus. Le problème a toujours été chez moi. C'est mon incrédulité qui barrait le chemin. C'est moi qui étais le problème. Et donc, le Père crie, « Je crois !» Viens au secours de mon incrédulité. Et lorsque vous croyez, c'est comme ça. Vous vous engagez avec la foi que vous avez, avec la foi que le Seigneur vous donne. Parce que bien sûr, vous ne pouvez pas avoir la foi sans que Dieu vous le donne. Mais vous utilisez cette foi et vous vous engagez. Et pour le reste, vous lui dites, venez au secours même de mon incrédulité. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que ma part, c'est la foi, et puis le Seigneur fait le reste. Mais si j'ai un manque de foi, tant pis, parce que le Seigneur ne va pas m'aider avec ce péché-là. Ce Père, il est plus sage, il est plus intelligent. Il sait que vient au secours de mon incrédulité. Même mon incrédulité, je la porte au Seigneur. Ce serait vraiment bizarre que Jésus nous délivre de tous les péchés, sauf le péché maître, l'incrédulité. Que personne ne peut surmonter le péché, sauf par Jésus, mais Jésus ne surmonte pas mon incrédulité. Vous voyez, nous avons des idées vis-à-vis de la foi qui sont toutes tordues, et nous devons tout apporter à Christ. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et vous voyez que maintenant, le Père pense que ce n'est pas seulement son Fils qui a besoin de Jésus, mais lui-même. Viens au secours de mon incrédulité. Il voit que lui, il est sous emprise du mal aussi. Et c'est ça que la foi fait. La foi m'amène à voir que moi, je suis mauvais. Moi, je suis en besoin d'être pardonné et changé. D'accord? Ok, donc, je termine. Et là, je vais parler plus à vous qui croyants, particulièrement, pas uniquement. Nous avons vu que Satan et le mal veulent nous amener à l'incrédulité. Nous avons vu que l'incrédulité est un mal en lui-même, horrible. Et nous avons vu un peu la nature de la foi. Maintenant, dernier point. Quelle est la solution à l'incrédulité? Qu'est-ce que cet événement nous enseigne? Eh bien, comme le Père, nous devons être honnêtes. J'aime bien sa franchise. Il est complètement honnête. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Mon incrédulité, il le nomme. Il dit, j'en suis le propriétaire. Et il le dit devant toute la foule, n'est-ce pas? Je suis au moins partiellement incrédule. C'est mauvais de ma part. Je ne peux pas m'en défaire moi-même, aide-moi. Et si vous voulez avancer dans des domaines où vous ne faites pas confiance au Seigneur, vous devez faire de même. Vous devez vous faire propriétaire de votre incrédulité. Le problème n'est pas chez Jésus, si tu peux. Le problème est chez toi. Si tu crois, tout est possible. Pas si Jésus peut. Donc, une fois qu'on se fait propriétaire du problème de l'incrédulité, on fait appel au Seigneur, on est sur le chemin de vraiment en phase avec lui. Le Seigneur peut accepter cette imperfection de notre foi. Pas de problème. Mais nous devons lui dire. Et nous avons besoin de lui au fond de tout cela. Mais la deuxième chose, dans le remède pour l'incrédulité, non seulement être honnête et remettre ça au Seigneur, mais aussi employer les moyens qu'il vous donne, cher croyant. Jésus dit dans la conversation après aux disciples, il dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Mais attendez, il a dit un peu plus haut, c'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu le chasser. Est-ce que c'est l'incrédulité ou est-ce que c'est la prière? En fait, c'est les deux et l'une à cause de l'autre. Comprenons-le comme ceci. La foi seule aurait suffi pour chasser ce démon. Si les disciples avaient cru, dans la puissance du nom de Christ et avaient parlé avec une foi inébranlable, l'enfant aurait été délivré. Mais le problème, c'est que parfois, devant un mal gigantesque, devant le mal dans ta vie, devant des choses coriaces que tu n'arrives pas à surmonter, tu n'arrives pas à croire comme ça. Et pour augmenter ta foi, pour fortifier ta foi, il faut que tu pries. C'est là, avec le Seigneur, en suppliant que le Seigneur te visite et te rend capable de croire plus. Et même certaines versions disent la foi et le jeûne. En tout cas, le Seigneur vous donne un moyen pour grandir dans la foi. Et un des moyens sans lesquels vous ne pouvez pas croire plus, c'est la prière. Cette sorte, et je vous le dis par rapport à votre péché le plus grave, cette sorte de péché ne sort que par la prière, qui augmente votre foi, qui vous amène à vivre dans la foi au Fils de Dieu par rapport à ce mal. Maintenant, je voudrais quand même faire une mise en garde. Si votre problème, c'est un intrus, c'est un démon, si c'était un démon, il suffit d'une parole, d'une foi, pour que vous en soyez complètement délivré instantanément. Parce que c'est une personne, soit il est là, soit il n'est pas là. Mais nos problèmes, la plupart du temps, c'est pas aussi simple que ça. Parce que même sans qu'il y ait de démons autour de moi, j'ai moi-même mon corps pécheur. Je suis mauvais. J'ai des restes du péché. Et je ne peux pas ôter moi-même de moi-même. Donc, il y a des gens qui pensent que, par exemple, j'ai un problème de colère ou de convoitise. Et la solution, c'est que je peux être délivré instantanément par la prière de foi. Loin de là. Ce n'est pas possible. La sanctification ne marche pas comme ça. Parce que pour que vous-même vous soyez changé, il faut un processus de changer vos attitudes, n'est-ce pas? Et la Bible parle toujours, lorsque la Bible parle de nous-mêmes et du péché intérieur, d'un processus graduel. Un processus graduel par lequel le mal sera vaincu par le Christ, par la foi en lui, la foi qui vient à travers la prière et d'autres moyens. Mais ne vous attendez pas à une délivrance complète et instantanée lorsqu'il s'agit de votre péché intérieur. D'accord? Je veux juste vous mettre en garde que vous ne preniez pas ce passage pour penser que vous allez avoir vous avez des habitudes de pensée, de désir, d'habitudes même dans le corps. Vous avez même programmé et formaté votre cerveau par certains péchés chimiquement d'agir d'une certaine façon. Et les chercheurs découvrent de plus en plus maintenant que lorsqu'on fait certaines choses, on creuse des chemins dans le cerveau. Et même notre corps est formaté pour réagir d'une certaine façon. Ah oui. Et c'est pour ça que Paul dit en Romains 6 que nous devons mettre mort dans nos membres le péché. Nos membres, le corps physique qui participe au péché. Donc ça, c'est un processus graduel. Et si je peux vous aider, je vais terminer, mais vous m'avez pas compris, prenez cette illustration. Voilà un garçon de 11 ans. Il veut avoir une moustache. Et il sait que Jésus peut tout faire. Donc il prie, « Oh Seigneur, donne-moi une moustache !» Et il croit vraiment. Et il pense qu'il va avoir une moustache instantanée. Le lendemain. Mais la vérité, c'est que le Seigneur va lui donner une moustache. Mais à travers le processus de la croissance physique qui viendra dans les années à venir. N'est-ce pas? Ça viendra. Mais par un moyen que le Seigneur ne va pas outrepasser. Et votre délivrance de certains péchés viendra. Mais ça viendra par un processus de croissance que le Seigneur est en train de faire. Mais pour nous aujourd'hui, Ce que nous voulons surtout comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est le maître absolu sur le monde, sur tout ce qui vous garde sur son emprise. Il est le maître absolu. Et vous ne pouvez pas avancer sans vous confier à lui et le croire. Que le Seigneur nous bénisse.